Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digital. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Salut Yvan.
Salut Laurent.
Merci pour ta participation à ce podcast Banous. Avec toi, on va parler d'un sujet qui est ultra intéressant, qui est la recharge des voitures électriques. Et plus spécialement, on va le regarder avec un axe marketing, bien évidemment, sur le podcast Banous. On va voir comment on met en place une stratégie marketing pour des projets sur le long terme. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Bien sûr. Donc, je m'appelle Yvan de Kersiz. Aujourd'hui, je suis le CRO d'Electra. Donc concrètement, CRO, c'est je m'occupe du revenu. Moi, mon objectif et l'objectif de toute l'équipe revenu, c'est lorsqu'une station Electra sort de terre, comment on fait pour la remplir avec du trafic, avec des voitures électriques. Donc ça, c'est vraiment la mission de notre équipe. Et avant ça, j'ai passé cette année chez BlaBlaCar.
Très clair, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, comme je le disais dans l'introduction, on va parler de recharge de voitures électriques. Comment toi, tu adresses ton marché ? Parce que finalement, c'est un marché qui est naissant. Le plein potentiel, si je puis dire, il va arriver dans 5 à 10 ans, ou enfin même en 2030, puisque en 2030, l'Europe interdira la création de nouvelles voitures thermiques. Comment tu fais pour voir le futur, tout simplement, Yvan ?
Ouais, je vais commencer par te partager quelques éléments de contexte sur le marché pour ensuite te décrire comment nous, aujourd'hui, on a choisi de l'adresser. En fait, le marché du véhicule électrique, comme tu l'as bien dit, il est assez récent. Si on regarde les chiffres, en France, il y a environ 900 000 véhicules électriques sur la route. C'est environ 2% des véhicules. C'est le tout début de l'aventure. En revanche, quand on regarde en termes de dynamique, si tu regardes le nombre de voitures électriques vendues au mois de septembre, c'est 19% parmi tous les véhicules. Donc tu vois bien déjà en fait à quel point ça s'accélère rapidement et tu peux comparer ça aux chiffres de 2022, c'était 13%. Donc aujourd'hui en volume, c'est petit, mais ça arrive vite. D'accord. Et nous, c'est tout notre enjeu parce que nous, quand on installe une station de recharge rapide publique, c'est une station qui est ouverte à tout le monde, sur le parking d'un centre commercial, d'un restaurant, d'un hôtel, et on signe des baux de 12 à 20 ans. Donc nous, l'infrastructure qu'on construit, elle est pour les 15-20 prochaines années. Donc une fois qu'on a dit ça, comment tu résous la tension de créer et donc d'investir beaucoup de capex, hein. Une station, c'est environ entre 400 000 et 800 000 euros d'investissement, et c'est nous qui le portons. Donc comment tu résous la tension entre ces investissements-là et le fait qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que si tu veux la remplir ta station, bah, tu n'auras pas du tout les mêmes taux d'utilisation que dans 5, 10, 20 ans. Donc ça, c'est le décor. Pour adresser ça, notamment sur le marché français, on a une stratégie avec deux têtes. Une tête B2B, une tête B2C. En fait, l'intérêt du B2B, c'est qu'il y a beaucoup de flottes professionnelles, comme le taxi, les VTC, comme les loueurs de voitures, comme les logisticiens du dernier kilomètre, qui vont passer à l'électrique plus rapidement que les particuliers, parce que c'est des très gros rouleurs. Donc eux, quand ils calculent leur total cost of ownership, concrètement le coût d'achat d'un véhicule et son coût de maintenance et d'utilisation, ils se rendent compte qu'ils font beaucoup d'économies en passant à l'électrique. Donc ils y passent en priorité. Et donc déjà là, tu as identifié une audience en fait, qui passe plus vite à l'électrique.
Alors pour continuer sur le débat, ça veut dire que donc, j'ai bien compris, vous focalisez dans un premier temps au primo, aux accidents, si je puis dire, qui sont le B2B à travers leur flotte de voitures électriques, ça c'est super clair. Monsieur et Madame Dupont qui ont une Zoé, comment toi tu les adresses ?
Alors, aujourd'hui on va adresser les deux, mais on va pas mettre la même quantité d'énergie sur les deux. Donc sur le B2B, on va avoir des équipes sales, d'account manager, qui vont aller trouver ses partenaires, leur offrir un produit dédié pour tu vois, que tu puisses suivre ta flotte en temps réel, tes consommations, patati patata, tu as un produit dédié. Et ça, on va mettre beaucoup d'énergie pour aller les signer. Mais côté B2C, il ne faut surtout pas les oublier. Aujourd'hui, ils représentent plus de 70% de nos charges, donc c'est quand même une grosse majorité, et c'est le plus gros marché dans le futur. Donc là, comment tu fais pour les adresser ? Au début, on a une stratégie très, très ciblée. on allait voir les influenceurs spécialisés dans le véhicule électrique. Donc, tu vois, c'est assez précis. Hein. Pour commencer à faire des partenariats avec eux, on a créé une communauté Facebook privée qui s'appelle l'Electra Lab pour accueillir nos premiers utilisateurs, hein, nos ambassadeurs, leur poser des questions sur le produit, leur partager les nouvelles sorties de station, les nouvelles fonctionnalités. Donc, comment tu crées une base très solide de power users qui sont en fait tes premiers utilisateurs. Et petit à petit, quand les gens vont passer du thermique à l'électrique, comment tu les accueilles chez Electra? Et là, on a une stratégie où on va chercher à comprendre où sont aujourd'hui les conducteurs de véhicules électriques. Bah, d'abord, ils achètent un véhicule électrique. Donc nous, on fait des partenariats avec Stellantis, MG, Honda, qui même vendent des véhicules électriques pour en fait pousser l'offre Electra à ce moment-là et permettre à leurs conducteurs de se recharger à prix réduit chez nous avec une expérience client, tu vois, assez simple. D'accord. On va chercher à comprendre où ils sont en faisant bien sûr de la publicité géotargetée. Tu vois, sur Facebook, on sait qu'à Paris, nous, par exemple, aujourd'hui, on est un des premiers réseaux de recherche publique. On a environ 30-40 stations. Donc, on a une densité qui est assez forte. Et si on pousse des publicités dans cette région-là, on sait qu'on a une forte chance qu'une personne ait une station Electra à moins de 5 minutes de chez elle, en fait.
Oui, pour toi, en fait, le digital, c'est magique parce que tu peux géolocaliser autour de tes stations pour les promouvoir directement auprès de tes potentiels clients.
Exactement. En fait, nous, nos stations, elles ne sont pas partout en France. Ouais. Elles sont principalement dans toutes les grosses villes. On prend les 10-15 plus grosses villes, elles sont très bien maillées. Mais si tu vas au milieu d'une région comme, je ne sais pas moi, la Creuse ou la Lozère, il n'y a pas de station Electra. Ouais. Ce n'est pas comme un e-commerce où tu peux vendre n'importe où en France et faire livrer. Nous, on a une contrainte géographique qui est assez forte.
Alors, tu l'as dit, la mise en place d'une station électrique de recharge, en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Comment tu mets en place une stratégie marketing sans trop te tromper, en fait, finalement?
Alors honnêtement, c'est toujours quelque chose qui est en construction. On est une boîte qui a 2 ans. On a grandi vite. Hein. Aujourd'hui, on est environ 160, mais c'est le tout début de l'aventure de l'électrique. Et donc nous aussi, notre stratégie, elle est en perpétuelle construction. Mais concrètement, sur la partie B2B, on l'a dit, c'est équipe sales, account manager. Et ça, j'y reviendrai pas. Sur la partie B2C, donc on a commencé avec trouver où sont les utilisateurs de véhicules électriques. Donc influenceurs, communautés. Mais à un moment, il faut que tu ailles chercher plus loin que ça. Et surtout, si tu prends du recul, sur le marché de la recharge électrique, aujourd'hui, il n'y a pas de marque très forte. Si je te demande de me citer 3-4 marques d'opérateurs de bornes de recharge, il y a des fortes chances que tu ne saches pas me répondre. À part si c'est un véhicule électrique, tu vois.
En fait, j'ai quand même bouquiné...
Ah. Ok, donc tu es biaisé. Mais si tu demandes, tu vois, à tes amis à un dîner, personne ne peut te citer une marque de recharge. Et donc nous, on a aussi un très grand enjeu de construction de marque. Comment demain on devient la référence de la recharge rapide en Europe? Comment tu crées une marque qui n'est pas que fonctionnelle, où les gens ne se disent pas juste c'est pas cher, c'est simple, mais vraiment comment tu crées un lien émotionnel? Et donc typiquement, on a fait un rebranding en septembre. D'accord. En travaillant avec 2 agences, Koto sur la partie positionnement et Pelo Studio sur la partie exécution, pour quitter tout l'univers des marques qui est très fonctionnel. Si tu vas sur les sites internet des opérateurs de bornes de recharge, il y en a beaucoup qui te disent « je suis très rapide, je suis partout ». Mais ça, en fait, ce n'est pas très différenciant parce qu'in fine, dans 2-3 ans, bon, tout le monde sera un peu partout, tout le monde sera rapide et ce n'est pas comme ça que tu crées vraiment des barrières à l'entrée. Et donc, nous, on a vraiment pris un contre-pied par rapport à ça et on s'est dit « quand tu viens chez Electra, comment tu te sens ?» Et la réalité, c'est que quand tu viens chez Electra, tu vas te sentir apaisé, calme et serein.
Alors, je le comprends tout à fait, mais... En fait, si j'étais un peu taquin, je dirais que Electra, finalement, c'est comme EDF, finalement. Je suis chez moi chez EDF, je pourrais être chez Total Energy, je pourrais être chez Engie, ça ne change rien. Comment, toi, tu fais pour recréer des vrais éléments différenciants par rapport à tes concurrents?
Ouais, c'est une super question et je pense que c'est vraiment une question qui est au cœur du modèle d'Electra. Parce que, in fine, l'énergie, c'est une commodité. Donc, que tu la reçois de Monsieur Méchu, Madame Méchu, BC, c'est l'énergie. Donc, comment tu crées vraiment une préférence pour qu'in fine, quand un utilisateur devra choisir entre 2 stations, il va venir chez Electra plutôt qu'ailleurs? Très concrètement, ça, c'est vraiment l'expérience client qui permet ça. Mais je vais te détailler de manière très concrète, hein, qu'est-ce que ça veut dire l'expérience client Electra. La première raison, c'est que c'est fiable. Ça va te paraître totalement basique. Quand tu vas faire ton plein d'essence, tu ne dis pas est-ce que ça va marcher ou pas. Hein, c'est mécanique. C'est malheureusement pas le cas dans le monde de la recharge électrique. Pour te donner quelques chiffres, notamment ceux de l'Avert, donc qui sont publics, en France, il y a environ 15% des sessions de charge qui échouent. Donc concrètement, tu arrives dans la station, tu as les enfants derrière qui sont fatigués, tu veux te brancher, 15% des fois, ça ne marche pas. Donc là, là, tu peux bien imaginer que tu pètes un câble quand ça t'arrive. Et donc, chez Electra, la première force, c'est que ce n'est pas 15%, c'est 2%. Et ça, concrètement, comment on y arrive? C'est qu'on a notre propre logiciel de supervision des bornes qu'on fait en interne. On a notre propre application. Et donc, en fait, on a plein de briques software qu'on développe en interne qui font qu'on maîtrise, en fait, tout le parcours utilisateur. Et pour te donner une comparaison, tu sais, quand tu as un ordinateur portable, tu arrives dans un endroit, tu veux te brancher une imprimante, ça ne marche jamais.
Ouais.
Bon, bah là, c'est un peu pareil. Tu as une borne et une voiture. C'est deux constructeurs différents qu'ils ont créés et donc ils ont du mal à se parler. Mais nous, en développant nos propres briques software, on arrive à réconcilier ça et faire en sorte que ça communique bien.
Alors, très clair, cet argument, je le comprends, mais dans 5 ans, tes concurrents, ils t'auront rattrapé. Comment, toi, tu arrives à aller un peu plus loin que tout ça?
Alors, ça m'amène à mon second point, qui est vraiment, merci de faire la transition, qui est l'expérience client et la simplicité d'usage. Et ça, aujourd'hui, Electra, tu peux télécharger l'application et grâce à elle, tu vas pouvoir réserver, par exemple, une borne à l'avance. Là, tu n'as pas le stress de savoir si tu as la queue ou pas. Une autre fonctionnalité, tu arrives sur un parking avec une barrière, tu peux ouvrir une barrière grâce à l'application Electra.
D'accord.
Une autre fonctionnalité qui est géniale, qui s'appelle auto-charge, c'est une fois que tu as créé ton compte Electra et que tu as fait une première charge, nous, dès que tu viens chez nous, on reconnaît ta voiture, on lance la charge et on prélève le paiement automatique. Et donc là, on passe d'un modèle où, en fait, quand tu vas te charger, il faut ton badge de recharge, c'est compliqué, il faut scanner des QR codes, à un modèle où c'est comme le soir quand tu es chez toi et que tu branches ton téléphone à la prise de couchant, tu n'as pas de questions à te poser.
Alors, pour venir sur un côté un peu plus marketing, est-ce que tu pourrais me donner tes 5 leviers préférés du moment?
Je ne sais pas si ma réponse va te satisfaire parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre premier levier d'action pour générer des charges, c'est le B2B.
D'accord.
Parce qu'en fait, une fois que tu as signé un partenaire, qu'il a un badge Electra dans sa voiture, il vient que chez toi. Il arrête d'hésiter entre 1 ou 2 ou 3 stations, il vient plus chez toi. Et donc, mécaniquement, tu crées une préférence de fait. Hein. Et donc ça, c'est un très gros impact de croissance. On voit, plus on met des ressources, plus ça scale.
Okay.
Du coup, c'est pas tant marketing, c'est plus revenu. Tu vois. C'est pour ça que je dis que ça ne va pas répondre forcément à ta question. Côté marketing, aujourd'hui, on est en phase d'exploration. Donc, on explore des partenariats affiliés avec des influenceurs. On va explorer le display géotargeté. On explore le CRM. On explore les partenariats avec des constructeurs automobiles. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un levier où plus tu mets d'argent, plus ça scale. On est vraiment en phase d'itération et d'exploration. Aussi parce que l'équipe est un peu plus récente que sur la partie B2B, où ça fait un petit bout de temps qu'on investit dessus. Mais c'est vraiment une phase qui est assez excitante et en même temps assez challengeante parce qu'il faut qu'on trouve nos 1, 2, 3 leviers sur lesquels on peut accélérer. Quoi.
Ok, je comprends tout à fait que ce soit le début. Et donc, justement, vous cherchez une espèce de martingale, si je puis dire. Comment tu calcules la performance de tes leviers?
Alors, nous, notre KPI numéro 1, c'est le revenu. On regarde toutes les semaines combien de revenus on va générer. Et donc, pour ça, il y a 2 variables. Il y a le nombre de charges que tu fais et à quel prix tu les vends.
Ouais.
Donc, on va toujours optimiser le nombre de charges côté B2B et B2C en mesurant toi versus le budget. Et après, le prix, bah, l'enjeu, c'est est-ce que tu priorises les volumes ou la grosse margin. Et donc, c'est toute la tension qu'on a, qu'on optimise en fait au quotidien. Mais aujourd'hui, je dirais que côté B2B, ce qu'on va regarder, c'est 1, le nombre de charges B2B, à quel prix elles sont vendues et combien en pourcentage total des charges ça représente. Et côté marketing plus B2C, on va regarder soit des KPI de combien, enfin parmi tous les nouveaux utilisateurs de l'app, combien sont venus grâce à un code promo qu'on a distribué. Tu vois, aujourd'hui, on est entre 5 et 15%. Ça dépend des semaines et des mois. Et ces codes promo, on va les pousser via des campagnes CRM, via des influenceurs. Ça c'est un super moyen et des programmes d'affiliation. Via des partenaires avec des IMSP. Les IMSP, c'est des applications qui agrègent plein d'opérateurs de bornes comme nous et qui servent en fait un peu comme un Google Maps, mais en plus, tu peux payer avec.
D'accord.
Et ça, en fait, c'est un super moyen de cibler une audience très qualifiée pour nous. Et donc, pendant les périodes de haute saisonnalité, on pousse des promotions pour attirer du trafic en station.
Alors, très clair, ouais, c'est une espèce de marketplace des fournisseurs des recharges électriques en France. Mais tu n'as pas peur, finalement, que ça cannibalise l'utilisation de ta propre application et que M. Dupont, qui a sa Zoé, bah, il utilise ce type d'app tiers pour réaliser tout ça? Comment tu vois les choses?
Ouais, bah c'est toute la, le paradoxe, en fait, pour nous, c'est des partenaires avec qui on travaille assez étroitement parce qu'on a des intérêts communs, c'est qu'on veut maximiser le nombre de charges. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que un utilisateur sur l'IMSP, il va privilégier le choix. Chez nous, il aura potentiellement un meilleur prix, en fait. Mais en fait, l'enjeu, in fine, pour le consommateur, aucun consommateur ne veut avoir 10 apps dans son téléphone pour se recharger. Un IMSP et 5 apps d'opérateur de borne. Donc, tout l'enjeu, c'est comment, in fine, tu deviens l'app ou parmi les deux apps de référence. Et ça, je pense que c'est la taille du réseau, la qualité, l'expérience client et le prix, en fait, in fine.
Oui, finalement, vous êtes comme dans le travel, enfin, en tout cas de ma perspective, c'est-à-dire que vous avez des applications type Booking, Trivago, etc. Et l'application Accor, moi, typiquement, je fais mes recherches sur Booking et après, je vais sur Accor pour avoir un tarif un peu plus bas. Très clair. Merci, Yvan. Alors, je comprends tout à fait votre positionnement et votre focus sur promouvoir votre marque avant de vendre, tout simplement. Alors, moi qui viens du marketing, je ne suis pas très confortable avec ça parce qu'il faut quand même réussir à vendre son produit. J'ai une marque de yaourt, ok, il faut la promouvoir, j'ai une nouvelle marque de yaourt, etc., etc. Mais il faut aussi vendre des yaourts. Tu peux expliciter votre focus marque et pourquoi vous l'avez fait ?
Ouais, bien sûr. Bah, pour reprendre ton exemple des yaourts, nous, au début, on n'avait pas de yaourts à vendre puisqu'on n'avait pas de station. Et donc, pour exister, il faut que tu parles fort et que tu parles assez régulièrement. Et donc, on a une stratégie de communication assez puissante, en tout cas assez ambitieuse, que ce soit sur les RP ou LinkedIn. Typiquement, sur LinkedIn, aujourd'hui, on est un des opérateurs de borne de recharge avec le plus d'interactions sur tous nos contenus au niveau mensuel. Ce qu'on suit d'assez près. Et ça, alors bien sûr, c'est un effort du quotidien de l'équipe communication de poster du contenu qui est pertinent, qui intéresse la communauté, etc. Et grâce à ça, on a pu sécuriser des sites où on installe des stations avec des super partenaires, comme, pour reprendre un exemple, Accor dont tu parlais, comme Casino, comme beaucoup d'acteurs du commerce, retail, etc. Et une fois que tu crées tes stations, là, il faut les remplir. Et là, il faut commencer à travailler en fait, la performance, que ce soit B2C ou B2B. Et un autre élément aussi, pour éclairer ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de passer à l'électrique progressivement. Donc, si tu crées une marque assez forte pour que demain, si tu achètes un véhicule électrique, ce que je te souhaite, tu penses directement à Electra et tu télécharges l'application Electra, bah, si on arrive à se positionner comme la solution de recharge des Européens, franchement, ça peut avoir un énorme impact aussi business, in fine.
Merci Yvan pour ces explications. Comment toi, tu progresses en marketing ? Est-ce que tu aurais des ressources à partager avec nos auditeurs ?
Ouais, c'est une bonne question. Alors, déjà, ce que je trouve super utile, moi, c'est faire appel à des pairs. Et donc, un des investisseurs d'Electra, c'est Serena. Et on a en fait une boucle d'opérateurs en marketing où je peux poser mes questions. Ça, c'est une ressource super précieuse. Une autre ressource que j'aime bien, c'est un Slack channel qui s'appelle le Brand Club, où il y a plein de head of brand, CMO. Et pareil, dès que j'ai des questions, en fait, freelance, outils, stratégie, measurement, je les pose dessus. D'accord. C'est un outil que j'utilise beaucoup. Il y a quelques newsletters marketing auxquels je suis abonné. Mais c'est principalement, en fait, demander à des pairs qui sont déjà passés par là, en fait. De m'aider à résoudre les questions que j'ai.
Merci beaucoup Yvan pour toutes ces explications. Et puis si vous, chers auditeurs, ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire sur le site Banous. On réinvitera Yvan pour prolonger cette discussion. En attendant, Yvan, merci. Où est-ce qu'on peut te suivre ?
Ouais, j'essaie de partager régulièrement sur LinkedIn, tu vois, des updates sur Electra et sur l'évolution de la boîte et de nos enjeux marketing. Ouais, c'est principalement via LinkedIn qu'on va me suivre.
Merci à vous de nous avoir écoutés sur les différentes plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Spotify et même maintenant YouTube. Sachez qu'on a besoin de vous pour remonter dans les classements. Alors, si vous pouvez nous laisser un petit commentaire, mettre une bonne note sur Apple Podcasts notamment, ça nous fera très plaisir. En attendant, retrouver tous les épisodes sur banous.com. Et puis, si vous avez des idées d'épisodes, n'hésitez pas à nous le dire directement sur le site ou via les différents réseaux. On est plutôt actifs sur LinkedIn. Et bien, écoutez, merci beaucoup et puis à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.